RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Wimbledon 2026, Day 8, 8e jour. Fallait que ça arrive. Les Anglais font rien comme les autres, ça je vous l'apprends pas. Hein. Ils roulent à gauche, ils mangent des choses un peu bizarres au petit déjeuner. Et puis surtout, ils ont une tradition qui parfois semble un peu désuète. Je vous explique. On n'a pas pu tenir le programme du cours central. Ça paraît un peu dingue parce qu'il n'y a que 3 matchs qui sont au programme sur ce cours mythique. Eh bien, à 22h57, le couvre-feu a obligé le juge-arbitre à interrompre la rencontre. Le 8e de finale qui opposait Sacha Zverev à Iri Lechka. Il y avait 2-7-0 pour l'Allemand. 3 partout dans le 3e, eh bien, il a fallu ranger les raquettes et vider le stade parce que, je vous en avais parlé hier, il y a un règlement intérieur qui a été décrété, dealé avec le voisinage lorsque Wimbledon a installé ses toits sur les deux cours principaux. On ne peut pas jouer après 23h, alors que à Roland-Garros, on peut finir à 2h, 3h du matin, à l'US Open aussi, à Melbourne aussi, mais à Wimbledon, c'est interdit. C'est pas possible, c'est un deal qui a été signé avec les voisins, parce qu'on ne peut pas se permettre de déranger les heureux propriétaires des villas assez cossues, parce que ça amène trop de trafic. Donc, c'est le règlement. Mais franchement, il y a un moyen très simple d'éviter ce genre de désagrément parce que, vous l'avez compris, Zverev et Lechka n'auront pas de jour de repos, du moins le vainqueur. Il va falloir revenir au charbon à partir de 14h30, enfin pas avant 14h30, c'est-à-dire après le match féminin qui va ouvrir pour la journée de mardi. C'est pas très fair. C'est un gros désavantage, mais ça s'explique. Ils se mettent des bâtons dans les roues tout seuls. Pourquoi commence-t-on à 13h30 local time sur le center court? Ça, c'est une question que je me pose tous les ans. Les matchs durent de plus en plus longtemps. On en a la preuve, hein. C'est évident parce que les conditions sont de plus en plus lentes. Donc, il y a des rallyes interminables parfois. Et aujourd'hui, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté, pourquoi? Parce que le premier match féminin a duré 2h22. Et puis, le 8e de finale entre Dimitrov et Ferry, on va y revenir bien sûr, hein, vous en doutez, il a duré 3h55. Donc, Zverev et Lechka, quand ils se sont présentés sur le court, ils avaient la quasi-certitude qu'ils ne pourraient pas aller au bout. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une contrariété. En 2026, ça me paraît dingue d'interrompre un match à 23h. Mais bon, ce sont les règles. The rules are the rules. Ici, disent souvent les Anglais. I'm a friend, not. C'est aussi une autre phrase magique qu'on entend dans les allées de Wimbledon, il faut respecter les codes. Je vous raconterai aussi l'anecdote des salles d'interview. Donc voilà, au moment où on se parle, donc, on connaît 7 des 8 quarts de finalistes. Et Taylor Fritz, qui s'est qualifié très facilement contre Alexander Bublik, 7-6-6-4-6-4, eh bien, va s'endormir sans connaître son adversaire, même si quand même, il se doute bien que Zverev ne va pas laisser filer l'occasion. Il mène deux manches à zéro, je vous l'ai dit. Il est en contrôle total. Lechka ne cesse de se frustrer parce qu'il n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'il a. Il a laissé échapper 7 balles de break. Enfin, laisser échapper, c'est peut-être pas le terme. Hein. C'est plutôt Zverev qui les a sauvées. Mais il se retrouve quand même en ballottage défavorable. Et je ne pense pas que ses coachs vont lui trouver une solution miracle demain, mardi, quand ils vont revenir sur le center court après le premier match féminin. Donc Fritz qualifié contre Zverev ou Lechka. On tient donc notre premier quart, enfin pas tout à fait si je puis dire, et l'autre quart de finale du bas de tableau, eh bien il va opposer Flavio Cobolli à Arthur Ferry. Ah oui, Arthur Ferry, c'est la sensation, vous en doutez, on va en reparler. Cobolli confirme que c'est un joueur tout terrain, confirme que Roland-Garros, sa perf, c'était pas un one shot. Victoire en 3-7 contre Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3. L'Italien donc qui marque des points, qui se rapproche de Turin, son objectif, il l'a dit à Roland-Garros, c'est d'essayer d'être au Masters chez lui à Torino. Et c'est bien parti parce que c'est un garçon qui devient quand même super dur à battre. Il a la confiance, et puis en face, alors là c'est la déprime totale. On avait déjà entendu des confs de presse un peu noires d'Alex de Minaur, mais là, on a atteint le summum. Le garçon est en burn-out. Le garçon a eu des mots très forts en disant qu'il en avait un peu marre d'être professionnel jusqu'au bout des ongles, de donner beaucoup de son temps pour être le plus professionnel possible et de voir que les résultats n'arrivent pas. C'est vrai qu'il cumule les déceptions. Et là, aujourd'hui, franchement, moi, je pensais qu'il avait les moyens. Parce qu'on connaît son talent sur gazon, il a un déplacement absolument inné, mais il y a des choses qui ne vont plus. Chez Numina, on a l'impression que le ressort est cassé. Il y a 2 ans, il se sentait prêt de tout meilleur, et là il l'a dit, hein, c'est plus le cas, c'est plus le cas du tout. Il s'éloigne des tout meilleurs et il glisse tout doucement au classement, parce que même s'il est encore 6e mondial, tu sens qu'il y a un gap entre lui et les tout meilleurs. Et là, il était dans un état de déprime assez inquiétant. C'est un garçon qui va pas bien, qui va pas bien. Heureusement, il a dit, il y a un heureux événement qui arrive. Je pense qu'il faisait allusion à son mariage avec Katie Boulter, qui était prévu cet été. Mais on n'est pas prêt de le revoir sur le circuit. Hein. C'est le message qu'il a envoyé. Il va vraiment essayer de se refresh, comme disent les Anglais, parce qu'il en a un besoin impératif, Alex de Minaur. C'est un garçon qui est ambitieux, mais là, il y a un blocage. Il y a un blocage et c'est vrai que c'est... On a de la compassion, on a de la peine pour lui, parce que c'est un garçon, on le sent, c'est un professionnel. C'est vrai qu'il lui manquera toujours une énorme première balle qui pourrait le soulager et que son petit gabarit lui joue des tours par rapport à des mecs comme Zverev, par rapport à des mecs comme Sinner, où il prend régulièrement des tôles. Mais il pensait... jusqu'à encore quelques semaines, peut-être, qui pourrait se faire une petite place. Surtout que cette année, il n'y avait pas Alcaraz. Mais voilà, le résultat, c'est que non. Il a touché ses limites. Il est en train de toucher ses limites. Je ne vais pas encore employer le passé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le tennis. Il peut y avoir des tableaux qui s'ouvrent. Mais là, défaite en 3 contre Coboli, celle-là, elle fait très, très mal. Donc, Coboli jouera contre Arthur Ferry. Alors ça, c'est la grosse sensation. On a vécu un match assez fantastique entre Arthur Ferry et Grigor Dimitrov, puisque ça s'est joué au tie-break du 5e, donc au super tie-break du 5e set. Arthur Ferry qui était à un moment en grosse difficulté face au Bulgare, parce que on a revu par moment le Grigor Dimitrov qui était en train de donner la leçon à Yannick Sinner l'an passé avant qu'il ne se blesse. Et on était le 6 aujourd'hui. C'était le 7 juillet 2025 qu'il se blesse contre Sinner. Et souvenez-vous, dans les tribunes, il y avait Roger Federer. Fait incroyable, Roger Federer était en visite aujourd'hui à Wimbledon. Et il était donc au premier rang pour encourager son pote, parce qu'il est très proche de Grigor Dimitrov. Mais en fait, c'est un porte-malheur, Federer. Grigor Dimitrov n'est pas parvenu à conclure cette rencontre alors qu'il menait 2-1, 4-3. Service à suivre, et là il y a eu 10 minutes horribles de la part du Bulgare. Ça a permis à Arthur Ferry de croire à nouveau en son étoile, et finalement il a emporté le morceau, parce que je pense qu'il était beaucoup plus frais, je pense qu'il avait une envie folle de vivre une telle émotion, et je trouve que Grigor Dimitrov a été rattrapé par ses démons. C'est dur, hein, parce qu'il a 35 ans et des occasions comme ça il n'aura pas beaucoup encore. Il expliquait qu'il avait peut-être eu du mal à digérer son match contre Berrettini, expliquait qu'il s'était couché à 3h du matin et qu'effectivement le corps a du mal à digérer tout cela, et aujourd'hui il était beaucoup moins saignant. Il a eu quand même des périodes où il a fait beaucoup de fautes, beaucoup de cadeaux, notamment dans le tie-break du 5e où normalement il doit imposer son expérience, il en était incapable. Donc nous les Français, les observateurs français, on est contents, parce que c'est Arthur Ferry, il est français, voilà, il est né à Sèvres, il y a maintenant bientôt 24 ans, sa famille est totalement française, hein. Son papa Loïc Ferry, on le connaît, c'est un homme d'affaires qui détient le FC Lorient, sa maman a été joueuse de première série, Olivia Gravro, ça parle français à la maison, mais puisque les affaires de papa étaient à Londres, et que il a préféré s'installer donc ici même à Wimbledon, hein, dans une maison à 5 minutes du stade. Et ben voilà, Arthur Ferry, comme disent les Anglais, il a logiquement pris la nationalité anglaise. On sait qu'aussi il a joué en Coupe Davis, donc il y a plus de moyen de le récupérer, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est une victoire assez folle, quoi. Sa joie était magnifique à voir. Wildcard, hein, 114e mondial. Il va faire un saut, un bond énorme au classement. Et puis surtout, moi, il m'a bluffé dans son jeu, quoi. C'est un garçon qui a un talent fou, qui sait tout faire, qui a un slider vert magnifique, qui rentrait dans la balle et puis qui lâche rien, parce que c'est pas la première fois qu'il renverse une situation compliquée. Contre Zizou Bergs, il était mené dans le 5e set, assez largement. Il est revenu au combat et là c'est pareil, il a pas lâché le morceau et chapeau à lui. Hein. Garçon donc un itinéraire assez particulier, je vous l'ai dit, donc biberonné ici en Angleterre avec une petite parenthèse aussi à Stanford pour avoir un bagage universitaire et ça l'a rassuré. Il a eu des petits pépins avec des petites blessures qui ont retardé son épanouissement. Mais là, ça y est, c'est parti. Hein. C'est parti et c'est un garçon qui va encore monter parce que là, même si c'est pas un gabarit énorme, 1,75, il se déplace remarquablement et sur herbe, c'est un poison. Souvenez-vous déjà au Queens, il avait failli battre Cerundolo. Donc, ouais, chapeau. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Donc, il va vivre un grand moment mercredi donc face à Flavio Cobolli. Est-ce que ce sera sur le central ou sur le 1? Ça, on le saura demain. En principe, si c'est Zverev Fritz, c'est quand même une affiche sympa. Mais bon, c'est le dernier anglais. Dernier anglais, en général, il joue sur le central. Alors, pour vous mettre dans les coulisses de ce tournoi qui est très particulier, les règles sont assez strictes. Et même s'il est français, bon, il a eu droit à la grande salle d'interview. J'ai eu le droit de poser une question seulement. Alors, j'ai essayé d'être habile, si je puis dire. Et je voulais qu'il évoque un peu sa situation particulière de franco-britannique. Donc je vous propose d'écouter sa réponse. Et c'est marrant parce que autant en anglais, il était très, très strict, très fermé, très, très carré. Et bien là, quand la question en français est arrivée, et qu'il a senti qu'il y avait un petit piège, mais bon, qu'il savait très bien où on voulait l'emmener, ben il a eu un petit sourire et je vous propose d'écouter donc sa réponse à Arthur.
Je suis content que les Français soient heureux de ma victoire aussi. Moi, je me sens très, très anglais et c'est le cas depuis un moment. Mais non, c'est clair que j'ai beaucoup d'accroches avec la France, de famille. Donc non, moi, ça me rend heureux aussi que les Français me considèrent comme Français. Ouais. Ça fait un an que je joue vraiment à plein temps. J'étais blessé pendant longtemps l'année dernière. Ça fait un an que j'ai vraiment repris et que je joue à fond. Bah, en termes de résultats, là, sur la saison sur gazon, j'ai vraiment fait des bons résultats au Queens et ici maintenant. Je pense que c'est une continuité de travail et voilà, ça paye maintenant, mais c'est des années de travail qui payent.
Non, c'est un garçon qui est très intéressant, qui a pris son temps, je vous l'ai dit, et puis qui a toujours cru en lui, qui a une belle équipe solide autour de lui avec un deuxième coach néerlandais. Donc il est en train de faire son trou complètement et puis ça va changer sa vie parce que là il va rentrer dans tous les tableaux. Je crois qu'on a calculé qu'il sera autour de la 60e place mondiale à minima, hein, parce que bien sûr il peut encore monter plus haut si jamais il est face Cobolli. Et puis bon, ça va changer sa vie et tant mieux parce que voilà, c'est un garçon qui est méritant, qui a su saisir ses opportunités parce que son tableau n'était pas facile, hein, cette année. Hein, il a joué Damir Zumur, ensuite Virtanen qui venait de battre Shelton, mais il fallait se le faire. Toujours sur le 18, Zizou Bergs ensuite, un match très compliqué en 5-7. Non, chapeau. Chapeau donc Arthur Ferry qualifié pour l'écart face à Cobolli. Puisqu'on est dans le garçon, vous connaissez les affiches de mardi, les premiers quarts de finale avec une spécificité anglaise. Moi je trouve choquant que les deux quarts ne se déroulent pas sur le center court, mais voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est Djokovic Auger-Aliassime qui aura lieu sur le central. Et Sinner, pour la deuxième fois de la quinzaine, ira sur le court numéro 1 pour défier Jan Lennart Struff, l'Allemand. Je vous en ai parlé hier, il détient donc le record du joueur le plus âgé à atteindre pour la première fois de sa carrière un quart de finale en Chelem. Et je trouve Sinner, attention, hein, il s'était joué à Halle, c'est ce que m'a dit une consoeur allemande, et ça s'était fini au tarif du troisième. Donc il va falloir que Sinner soit très vigilant. Chez les filles, là on est au complet. On avait donc les derniers quarts de finale du bas de tableau. Il y a eu quand même est-ce qu'on peut appeler ça des surprises? Oui, dans le sens où, par exemple, Madison Keys, pour moi, sur son CV, elle a été sortie par Noskova. Alors vous allez me dire, Noskova, elle est tête de série 9, elle est 12e mondiale. Oui, certes, elle joue très bien sur herbe, elle a gagné Berlin. Mais je pensais que Madison Keys, qui détient donc déjà un grand chelem, le fameux Open d'Australie 2025, je pensais qu'elle avait les moyens de se frayer un chemin en finale. Ben non, elle a été bloquée. Bien bloqué par Noskova, 6-4-7-6, et la Tchèque jouera en quart de finale Elise Mertens, qui donc a confirmé son exploit face à Elina Rybakina, la Belge qui a battu Marie Bouskova, la Tchèque, en 2-7, 6-4, 6-4. Et puis l'autre affiche des quarts, ce sera Kostiuk, Marta Kostiuk, qui confirme sa grande forme, hein. Elle est vraiment sur une dynamique assez incroyable, avec une robe absolument magnifique confectionnée par sa marque, par son équipementier, je ne vais pas le citer. Kostiuk qui a mis fin au parcours d'Ashlyn Krüger, qui est 102e et qui sortait des qualifs. Et Kostiuk jouera la seule joueuse qui a déjà atteint la finale ici. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent, après l'hécatombe. Jasmine Paolini, toujours en vie, qui a mis fin au parcours d'Alexandra Ehala, victoire en 3-7. Et là, elle retrouve vraiment des couleurs, Paolini. En plus, elle était ravie de jouer sur le center court avec Roger Federer dans les tribunes, c'était son idole. Et on l'a retrouvé comme on l'aime, hein, avec la banane, le sourire aux lèvres. Et ça faisait plaisir parce qu'elle a traversé quand même des moments difficiles. Elle a glissé au classement WTA, vous le savez, elle gagnait plus grand chose. Mais là, elle redevient très compétitive sur herbe. Et je suis très curieux de voir son match contre Kostiuk mercredi. Ça peut être assez serré. Ça peut être un beau match-up, comme on dit ici en Angleterre. Voilà, je termine avec aussi des petites nouvelles des Français, puisque c'est terminé pour Xenia Efremova dans le tableau junior. Défaite dès le deuxième tour en 2-7. Confirmation que donc c'est terminé avec Manu Planck. J'ai pu échanger avec Ivan Ljubicic, qui m'a dit que les deux caractères, ça collait pas, ça n'avait pas matché. Donc c'est Ivan Ljubicic qui a carrément pris la décision de stopper ce duo. Donc il va falloir qu'on lui trouve quelqu'un d'autre pour poursuivre sa progression. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, hein. C'est ce que je disais hier, ça va être son troisième entraîneur en une année. C'est jamais très très bon signe. Et puis si jamais les histoires un peu rigolotes vous amusent, j'ai écrit un petit papier sur le site d'RMC, puisque j'ai fait ma petite enquête. Tatiana Maria, vous connaissez l'Allemande, hein, demi-finaliste ici à Wimbledon il y a quelques années. Elle a une fille de 12 ans, Charlotte, qui voyage avec elle, hein, avec son mari. Hein, c'est vraiment une famille qui est totalement dédiée au tennis. Et Charlotte, elle a un niveau de fou. Elle a 12 ans. Elle s'entraîne tous les jours avec sa maman, mais aussi avec des joueuses du circuit, comme à Wimbledon, ou sur tous les tournois. Elle est sparring partner, quoi. Et elle a un niveau, tout le monde me le dit, assez incroyable. Eh bien, sachez que c'est officiel. Elle jouera pour la France. Elle avait le choix entre 4 pays, puisqu'elle a 4 passeports. Passeport colombien, alors ça c'est, je crois que c'est du côté de son papa, le passeport allemand bien sûr, le passeport français puisque son papa est alsacien, et aussi le passeport américain puisqu'elle est née aux États-Unis. Et bien en concertation avec la FFT, notamment Ivan Ljubicic, le deal est signé. Donc Charlotte va jouer pour la France quand elle sera en capacité de jouer, puisque je vous le rappelle, elle a 12 ans, elle aura 13 ans au mois de décembre. L'autre particularité, c'est que vous ne la voyez pas dans les tournois de jeunes, les fameux tournois de 12 ans. Non, puisqu'elle est avec ses parents. Donc l'idée, c'est qu'elle se lance sur le circuit professionnel quand elle aura 14 ans. Donc elle aura deux, trois, le règlement, je crois que c'est trois ou quatre tournois. Mais ils ne veulent pas les faire jouer des tournois dans sa catégorie d'âge. Voilà, c'est une démarche un peu particulière. Ça ressemble un peu, toute proportion gardée, au Sir Williams. Mais en tout cas, c'est un projet qui, pour reprendre l'expression d'Ivan Ljubičić, qui peut exploser dans le bon sens, donc hein, faut le comprendre comme ça, à très court terme. Et c'est à suivre. Donc Charlotte Maria, retenez bien ce nom. On espère qu'elle portera très haut les couleurs françaises. Mais ça paraît dingue ce que je raconte, mais parce qu'elle a que 12 ans, donc on peut pas tirer de plan sur la comète. Hein. On va pas en faire une future star. Mais le choix du drapeau, il n'est pas innocent. Et regardez ce qui se passe dans la Coupe du Monde de foot. Michael Olise, il avait le choix entre le Nigeria, l'Angleterre et la France. Il a choisi la France. Et nous, on s'en félicite. Bah, c'est peut-être un petit coup de pouce du dessin à une période où le tennis féminin français souffre terriblement. Voilà, Charlotte Maria. Retenez ce nom. On va suivre évidemment l'évolution de sa petite carrière. Pas tout de suite, on va la laisser grandir bien sûr. Mais moi, je suis sûr qu'il y a... Je sais pas. J'ai envie d'y croire. Allez, on va rester là-dessus. Ciao, ciao. We'll be right back.